C'est le débat du jour et c'est avec vous Romain Ozoui.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous. Quelle place pour l'Inde en Afrique ? C'est la question que nous posons ce soir alors que c'est ouvert aujourd'hui à New Delhi. Le troisième sommet entre l'Inde et le continent africain. Il va durer ce sommet jusqu'à jeudi. Une donne particulièrement importante cette année. Il s'agit du premier sommet de l'ultra-libéral Narendra Modi en tant que chef du gouvernement indien. Et ce sommet intervient alors que la croissance indienne dépasse les 7%. Est-ce que le continent africain va être le nouvel Eldorado de l'économie indienne ? C'est le débat du jour. Et deux invités avec nous. Tout d'abord, à nos côtés en studio, Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université de Paris 8, chercheur associé à l'IFRI, qui est l'Institut français des relations internationales, spécialiste de l'Inde. Bonsoir.
Bonsoir.
Et en ligne avec nous depuis Alençon en Normandie, Jean-Joseph Boileau, conseiller au club du CEPI pour les pays émergents. Le CEPI, c'est le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Vous êtes l'auteur de l'Inde pour les nuls, également l'auteur de l'Afrique pour les nuls. Tout devrait être limpide avec vous. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors l'Inde montre un vrai appétit pour l'Afrique. Le premier ministre Narendra Modi a prévenu que son pays comptait investir dans les trois prochaines années près de 4,5 milliards de dollars en faveur de l'Afrique. Première question pour bien camper le décor. Je commence avec vous, Jean-Joseph Boileau. Quel secteur intéresse l'Inde et dans quel pays ?
Écoutez, on a affaire quand même à deux continents. Donc même s'il y a 54 pays en Afrique, il y a 29 États en Inde, vous avez 1,3 milliard d'habitants, on a la rencontre de deux géants. Donc il n'y a pas évidemment un ou deux secteurs seulement. Si j'en juge par ce qui se passe dans les interventions, alors on va prendre sur un plan plus microéconomique en Afrique. Écoutez, c'est simple, il n'y a pas un pays en Afrique, où il n'y a pas aujourd'hui des opérations plus ou moins grandes d'entreprises indiennes. Au nord, la Libye, le Nigeria qui est devenu le premier exportateur de pétrole vers l'Inde, le Soudan, le Gabon, l'île Maurice, bien sûr, Madagascar, Ghana, mais aussi dans l'Afrique francophone, la Mauritanie où Tata a des exploitations importantes, et puis le Sénégal où l'Inde a offert quand même un plan d'aide pour le transport significatif. Le Mali où il y avait avant la guerre au Mali une coopération stratégique sur l'eau. Donc je crois que l'Inde balaye très large. Elle est, au niveau de ses entreprises, présente finalement dans à peu près tous les secteurs. Elle est, par contre, complémentaire avec la Chine dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire que là où la Chine est forte, l'Inde est faible et vice-versa. Le bon exemple, c'est l'affaire Airtel, le numéro 1 du téléphone en Inde, qui est devenu le numéro 2 ou 3 en Afrique et qui s'appuie sur les équipementiers Huawei de Chine et sur les téléphones mobiles et les smartphones chinois pour poursuivre l'intensification de sa présence, désormais plus de 25 pays en Afrique.
Isabelle Saint-Mézard, vous êtes d'accord avec ces propos ? Il y a une implantation totale aujourd'hui de l'Inde sur le continent africain ?
Disons qu'on trouve des entreprises et des acteurs économiques indiens sur effectivement l'ensemble du continent. En termes d'investissement, on les trouve encore aujourd'hui quand même dans ce qui est leur tropisme, je dirais, historique et traditionnel, c'est-à-dire plutôt en Afrique australe, encore beaucoup en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, mais de plus en plus au Nigeria
et aussi parce beaucoup... qu'il y a les hydrocarbures, c'est un des secteurs
C'est là où j'aurais peut-être une petite différence avec Jean-Joseph Boileau, c'est-à-dire je pense quand même que la quête des matières premières est déterminante dans l'intérêt qu'éprouvent et le gouvernement indien et les grands acteurs économiques publics et privés indiens pour le continent. Si on regarde les principaux pays exportateurs vers l'Inde, ce sont des pays qui ont des matières premières. Il s'agit du Nigeria et de l'Angola, donc c'est le pétrole. Égypte également le pétrole et les phosphates. Maroc pour les phosphates. Ghana, Afrique du Sud, c'est l'or et les métaux précieux. Donc on voit quand même que sur la structure des échanges commerciaux, l'essentiel de ce qu'exportent ces pays africains, ce sont des matières premières. Et en retour, les Indiens ont plutôt tendance à exporter des produits manufacturés, semi-manufacturés. En ce sens, la complémentarité avec la Chine dont parlait Jean-Joseph Boileau Oui, dans une certaine mesure, mais pas sur toute la ligne. C'est-à-dire qu'il y a aussi des effets de concurrence. Il y a des effets de concurrence pour avoir accès à certains gisements, à certains puits pétroliers. Et puis, il y a des effets de concurrence pour avoir accès au marché avec la Chine. Je pense qu'on ne peut pas complètement éluder cet aspect-là.
Alors, vous évoquez tous les deux...
Je pense que
Jean-Joseph Boileau, votre réponse.
Oui, comme toujours, les statistiques, c'est une image du passé. Il est important de savoir ce qui commence à évoluer. L'image du passé est toujours un peu erronée. Vous voyez, par exemple, en 1995, les relations commerciales entre l'Afrique et l'Inde n'étaient que de 1 milliard de dollars. En 2008, 35 milliards de dollars. Aujourd'hui, elles vont dépasser les 70 milliards de dollars. Non, si j'en juge par mon expérience de terrain, à la fois en Inde, où je travaille avec des entreprises indiennes sur le marché africain, et en Afrique, un peu partout, ce qui était des tropismes bien désignés par Isabelle, à savoir une Afrique australe et de l'Est, et puis essentiellement des matières premières, ça c'est, je pense, un regard assez maintenant du passé. En réalité, ce qui compte aujourd'hui, notamment dans ce sommet, c'est précisément que l'Afrique ne souhaite pas reconduire avec l'Inde une relation univoque comme celle avec la Chine, où l'Afrique ne serait intéressante que pour les matières premières, pour une raison simple, c'est que les groupes indiens qui voient à leur porte un marché qui aujourd'hui est équivalent au marché indien, 2800 milliards de dollars, ont tous en tête ce chiffre d'un marché de une trentaine de 30 000 milliards de dollars en 2050, que dans les 10 économies à croissance la plus rapide dans les prochaines années, eh bien 6 sont en Afrique, et donc pour eux, ce qui était autrefois un tropisme purement matière première devient véritablement un enjeu en termes de marché. Alors il y a concurrence avec la Chine, bien sûr, mais comme l'exemple d'Hertel l'indiquait, et comme on le voit dans tout un ensemble d'autres secteurs, par exemple le diamant avec le Botswana, il y a dans l'agroalimentaire également, on n'en parle pas assez, de véritables entrepreneurs indiens qui sont aujourd'hui en train de défricher en Éthiopie, par exemple, qui est un point fort aussi aujourd'hui dans la ligne de mire des groupes indiens. On est en voie de basculement vers ce qui était donc une relation typiquement de type quasiment néocolonial, vers quelque chose qui est la recherche aujourd'hui de position, de part de marché de la part de la grande industrie indienne.
Alors vous évoquez tous les deux en tout cas la concurrence entre l'Inde et la Chine en Afrique, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de concurrence possible. Pékin réalise plus de 210 milliards de dollars de commerce bilatéral avec le continent africain, c'est trois fois plus que l'Inde. Est-ce que le ralentissement de l'économie chinoise qui est observé actuellement est une aubaine finalement pour l'Inde qui de son côté voit sa courbe de croissance exploser, plus 7,5% cette année, c'est l'économie la plus beaucoup plus dynamique hein, que la Chine. Je vous pose la question, Jean-Joseph Boileau.
Écoutez, moi je crois qu'on a en fait effectivement un tournant aussi du côté chinois où on va sortir du Made in China avec des produits très bon marché qui ont effectivement inondé l'ensemble des marchés africains vers quelque chose qui est bien porté depuis 2 ans par le président Xi Jinping et son premier ministre, qui est d'investir dans de grands projets d'infrastructure avec des prêts qui sont puisés dans leurs réserves de change de 4 000 milliards de dollars, donc une force de frappe considérable. Et là-dessus, il n'y a pas photo.
C'est la grande différence entre l'Inde et la Chine, c'est ça? C'est finalement, la Chine avait un peu une approche low cost, un petit peu, de l'investissement en Afrique, l'Inde veut s'adresser plus à la classe moyenne.
Le paradigme chinois, c'était l'usine du monde, d'accord? Et ça a bien fonctionné sur l'Afrique avec l'échange de matières premières. Ce paradigme est en train d'évoluer vers des grands projets. Quand vous regardez les grands projets chinois en Afrique, depuis 2-3 ans, je prends l'exemple du tramway d'Éthiopie, d'Addis Abeba qui vient d'être inauguré, des grands projets ferroviaires. Là-dessus, l'Inde n'est pas du tout sur ce terrain-là. Elle n'a ni les financements, ni le savoir-faire. Par contre, ce qu'elle espère bien, c'est précisément se glisser vers une demande du marché africain pour des produits un peu spécifiques qui sont, alors on a On prends souvent l'exemple des médicaments génériques, mais au-delà de ça, j'ai pu voir, par exemple, les motos Bajaj, les tricycles, les trimoteurs, les rickshaws à trois roues ou les autobus Tata. Il y a véritablement aussi du côté des entreprises comme Godrej, avec ce make in India de produits basiques, qui sont peut-être bon marché, mais qui sont plus solides que les produits chinois, une véritable stratégie de pénétration, par exemple, dans la cosmétique.
Isabelle Saint-Mézard, en tant que chercheur, comment est-ce que vous observez l'appétit de Narendra Modi, donc le Premier ministre indien, pour l'Afrique ?
Alors, avant de répondre à votre question sur Narendra Modi et sa vision de l'Afrique, j'ajouterai quelque chose à ce qu'a dit Jean-Joseph Boileau sur ce que font assez bien les Indiens en Afrique, c'est aussi beaucoup la formation. Il y a effectivement cette vision d'un partenaire. Et les Indiens, alors depuis très longtemps, depuis les années 50, attribuent des bourses d'études, font de l'assistance et de l'aide à la formation professionnelle depuis les années 60-70. Et alors là, dans le cadre de leur ouverture sur l'Afrique, ils ont vraiment renforcé tous ces programmes d'aide à la formation. On estime que 40 000 Africains, bon, c'est pas un chiffre délirant, mais c'est un chiffre substantiel, ont bénéficié de programmes de formation depuis 2008, donc depuis le lancement des grands sommets Inde-Afrique, dont la troisième édition se déroule en ce moment. Ils ont mis quelque chose d'assez intéressant, à savoir un grand réseau, une grande plateforme sur 48 États qui permet l'enseignement à distance et la télémédecine et le téléenseignement. Ça, ce sont des approches quand même assez intéressantes qui ne sont pas encore massives, mais qui, par cet accent porté au développement des ressources humaines, tout simplement, des ressources humaines, des compétences techniques et professionnelles africaines, peut vraiment apporter quelque chose d'intéressant.
Donc, et l'Inde qui apporte également sa connaissance en informatique. Mais j'aimerais bien prendre du recul un petit peu sur au-delà de ce qu'apporte dans les détails l'Inde en Afrique. Comment est-ce que vous voyez justement, vous, cette soif un petit peu du Premier ministre indien pour s'implanter en Afrique ?
Alors, moi, je nuancerais le terme de soif. C'est tout l'art de Narendra Modi de savoir créer du buzz, comme on dit en bon français. C'est-à-dire que Narendra Modi convoque une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement africains, là où dans les deux précédentes éditions Inde-Afrique, des forums Inde-Afrique en 2008 et 2011, il y avait eu à peine une quinzaine. Et c'était voulu comme tel, on voulait des sommets assez modeste. Avec Narendra Modi, tout se fait en grand. Par définition, il adore le grand spectacle, il adore les effets médiatiques. Je plaisante un peu là-dessus, mais on ne devrait pas, parce que ça a un vrai impact sur l'image de l'Inde, c'est-à-dire la capacité justement à attirer l'attention, à donner le sentiment que les choses changent. Donc pour l'instant, au moins, il attire l'attention par ses grands événements. Donc là,
est-ce que ce qu'il promet est concret ?
Ah, bah ça, c'est une question qui s'applique à tout ce que dit Narendra Modi, y compris au plan intérieur. Donc, je m'aventurerai pas pour l'instant sur ces sujets-là. Disons qu'il essaie de mettre beaucoup d'attention dans ses programmes, beaucoup de professionnalisme. Après, il promet quand même énormément de choses. Ce que je voudrais signaler, c'est que ce grand sommet Inde-Afrique qui se déroule en ce moment, ne doit pas complètement brouiller l'image et l'importance que revêt le continent dans la vision diplomatique générale de Narendra Modi. Voilà. C'est-à-dire que Narendra Modi s'est avéré être un passionné de diplomatie. Il n'a pas arrêté de sillonner la planète depuis qu'il a pris ses fonctions de Premier ministre, donc depuis à peu près un an et demi, juin 2014. Il s'est rendu dans plus d'une vingtaine, peut-être une petite trentaine d'États. Il n'a, pour ainsi dire, pas mis les pieds sur le continent africain. Il a mis les pieds dans quelque chose qui est l'Afrique, c'est-à-dire Maurice et les Seychelles. Mais ça participe d'un autre projet qui est un projet d'influence en océan Indien.
Jean-Joseph Boileau, vous êtes d'accord avec ce que dit Isabelle Saint-Mézard ? Finalement, c'est un peu illusoire l'intérêt.
Non, j'ai pas dit que c'était illusoire non plus.
Dans le sens où finalement, concrètement, on le voit pas sur le terrain.
Je pense que là encore, on se focalise toujours sur un homme. En réalité, Modi a mal commencé. Il y a eu l'annulation quand même du sommet qui était prévu en décembre dernier, à ma connaissance, c'était en décembre, à cause d'Ebola. On ne peut pas dire que la presse africaine était fortement contente de ce signal. Comme le disait Isabelle, il a ensuite sillonné la planète entière et il ne s'est vraiment pas intéressé à l'Afrique. Non, je crois que derrière Narendra Modi, il y a deux forces extrêmement puissantes en Inde qui, justement, ont réussi à pousser cet agenda. C'est d'une part le business qu'on appelle India Inc., Incorporated, qui, elle, donc, ou lui, depuis quelques années, connaît une croissance de ses exportations sur l'Afrique de 25 à 30% par an. Hein, donc vous voyez que c'est un véritable mouvement significatif, avec y compris des hommes d'affaires comme Mittal, qui, il a beau dire qu'il n'est pas de nationalité indienne, est extrêmement présent, c'est l'homme le plus riche en Afrique du Sud. Au Sénégal, il avait cette affaire considérable de mine de fer, qui lui a d'ailleurs valu là aussi des déboires. Le groupe Tata...
Plus globalement, Jean-Joseph Boileau, plus globalement, plusieurs observateurs affirment que l'Afrique est un test, finalement, pour évaluer la manière dont l'Inde pourra se comporter en tant que puissance montante. Vous en pensez quoi de cette
constat? Alors justement, il faut bien séparer Modi, donc d'une part le India Inc., d'autre part quand même, j'aimerais signaler que les questions de sécurité sont essentielles. Le rôle de l'armée, du ministère des Affaires étrangères est essentiel là-dedans, la navale en particulier. Face à la Chine, il y a le collier de perles d'un côté, donc tissé par la Chine et qui entoure l'Inde, et puis de l'autre côté, comme le dit très bien notre chercheur africain sur l'Inde, qu'il y a le triangle de Varuna, c'est la déesse hindoue de la mer, c'est la déesse le symbole de la navale indienne. Elle veut absolument être présente et elle sait que l'Afrique, c'est clé pour elle. Par contre, Modi, lui, il est face à des contradictions. D'une part, sur le plan personnel, au niveau politique et domestique, il a une politique anti-musulmane, une politique assez raciste, et donc vis-à-vis des Africains, un problème d'image de marque. Et deuxièmement, il a quand même mis le général Sisi comme invité d'honneur, et on dit que c'était un coup diplomatique. Or, l'Inde, c'est aussi la plus grande démocratie du monde, et donc il y a du côté de Modi un message brouillé, en réalité, et ce sommet va être l'occasion, me semble-t-il, de faire émerger ces contradictions de la politique Modi, sachant que en souterrain, les forces profondes de l'Inde et de l'Afrique convergent de façon évidente, comme on va le voir sur le climat, par exemple.
Isabelle Saint-Mézard, il y a effectivement derrière un petit peu cette analyse économique un enjeu géopolitique.
Oui,
L'Inde et la Chine veulent, à travers l'Afrique, s'ouvrir finalement une route menant vers leur pays.
Je partage l'analyse de Jean-Joseph Boileau, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux forces-là qui poussent cette ouverture indienne à l'Afrique. Le business, comme l'a dit très bien Jean-Joseph. Et je signale d'ailleurs qu'il y a un grand forum de business en parallèle au forum avec les chefs d'État et de gouvernement, avec près de 400 délégations qui vont venir. Et ce forum de business est organisé par la principale chambre patronale indienne, la CII, qui est extrêmement puissante. Donc c'est vrai que les acteurs économiques sont vraiment les fers de lance, il n'y a aucun doute là-dessus, du rapprochement Inde-Afrique. Et Jean-Joseph a tout à fait raison de désigner l'importance des acteurs, des forces armées, et notamment de l'Indian Navy, qui est très ambitieuse, qui veut vraiment porter le drapeau indien très, très loin du littoral indien, aussi loin que possible en océan Indien. Je formulerai peut-être pas la rivalité sino-indienne en océan Indien de façon aussi tranchée que d'un côté collier de perles et de l'autre triangle de Varuna. Là, pour le coup, je pense qu'on accélère ou on conceptualise des choses qui sont encore assez fluides. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une très forte poussée chinoise vers l'océan Indien, encore récemment incarnée par ce grand projet chinois des nouvelles routes de la soie, One Road, One Belt, et que cela met l'Inde mal à l'aise. Mais les Indiens ont de très bonnes cartes à jouer en océan Indien. Ils sont extrêmement proches de Maurice, de la Réunion, bon, qui est française, mais néanmoins, des Seychelles, du Mozambique, de l'Afrique du Sud, et là, la marine indienne est extrêmement présente.
Merci Isabelle Saint-Mézard. Affaire à suivre, donc, finalement, cette concurrence entre l'Inde et la Chine en Afrique. Isabelle Saint-Mézard, maître de conférence en géopolitique à l'Institut français de géopolitique de l'Université l'Université de Paris 8. Merci également à Jean-Joseph Boileau qui était avec nous en ligne depuis la Normandie, conseiller au club du CEPI.
Je suis bien désolé de ne pas être à vos côtés.
Merci.
Au revoir.